Donc, on va parler des Tchompi, c'est un sujet qui n'a pas été abordé ici. On a passé les 30 ans d'Accorfi, donc. C'est à Florence. Florence a déjà été dévoilée, la période médiévale de Florence. Comme tu l'as dit et comme c'est mentionné. Si, c'est mentionné. 1378, ça dure 4 ans, mais en fait, il y a 2 bons mois où ça se déroule durant cet été 78. La République de Florence, les Tchompi, le tumulte. C'est des mots qu'on va essayer d'un peu analyser. Alors, on va repartir en amont. On va essayer d'abord de comprendre comment fonctionne Florence. Parce que comprendre cette révolte, si on n'a pas quelques bases, même pas mal de bases, sur la République florentine, c'est quasiment impossible. Alors donc, je suis forcé de faire un large détour. Au début, je n'avais pas prévu, et puis je me suis dit que ce n'était pas possible autrement. Alors, je remonte très loin à Charlemagne. Hein. 30 ans après sa mort, on a enfin réussi à signer le traité de Verdun, qui sépare donc son royaume en 3 zones. La Francie occidentale, ici, qui deviendra la France. La Francie orientale, par là, qui deviendra la Germanie, l'Allemagne. Et entre les deux, coincée, la Francie médiane, comme on l'appelle à l'époque, pas avec ces mots-là, bien sûr, mais c'est ce qui en vient. Ou Lotharingie, le royaume de Lothaire. Donc voilà l'ensemble. Et en bas, on voit marqué Lombardie. C'est ça qui va nous intéresser. La Lombardie, vous voyez ici, c'est la zone Toscane et Florence est par là. Donc, de par ce traité de Verdun, Florence et le nord de l'Italie appartiennent à la zone centrale. Alors, très rapidement, les liens vont se détendre, ça va être une joyeuse anarchie féodale qui va s'installer dans tout ça, et en particulier en Lombardie. Très vite, la partie jaune va absorber la partie verte, et un empereur renommé Otto pour les Allemands, Othon pour nous, va arriver au pouvoir vers 946, donc un siècle après. Voici une représentation d'Othon. Couronné dans les deux cas. Alors cet Othon va prendre le pouvoir en Italie aussi, il va descendre, guerroyer, c'était ses possessions, donc il n'hésite pas, il fonce. Il se retrouve confronté à un dénommé Béranger d'Ivrée qui a été roi d'Italie, qui a été roi de plein de choses, qui se faisait virer mais qui revenait par la fenêtre et qui semait la zizanie partout. Enfin, quand Othon est arrivé, il a réussi à le bloquer et on voit la scène représentée ici, la soumission de Béranger d'Ivrée. C'est en 951 que Othon devient roi d'Italie. Ensuite, il va essayer de se faire couronner empereur, il va y parvenir, et c'est le pape Jean XII, ici, vous voyez les beaux chapeaux qu'ils ont tous, hein. Et ce pape, donc, va le couronner empereur des Romains. Alors, on en arrive donc à un moment où dominent finalement deux grands ensembles qui sont la papauté, qui structurent, disons, la pensée, la papauté et l'Empire romain germanique. Je ne dis pas encore ça, je dis seulement romain germanique pour l'instant. Cet empire se veut, comme son nom l'indique, l'héritier de l'Empire romain, grâce au pape. Il se veut aussi le continuateur, disons, de l'Empire carolingien. Alors, pour l'Empire romain, il y en a d'autres qui prétendaient aussi, c'est ça le problème, c'est les Byzantins. Et pour nous, Charlemagne était bien un empereur, mais aussi un roi de France, même s'il était à Aix-la-Chapelle. Et donc, cette continuité par rapport à Charlemagne n'est pas non plus une idée qui est valable pour tout le monde. Néanmoins, la puissance de l'Empire romain germanique est bien supérieure à celle de la Francie occidentale, qui deviendra la France que quelques siècles plus tard. Alors voilà, et puis on voit arriver l'adjectif saint qui vient là, quoi, Saint-Empire romain germanique. Vers l'an 1000, c'est la représentation sur la carte, mais en fait, la notion de saint n'arrivera qu'en 1157 sous Barberousse, et cette notion, donc, fait appel au divin pour expliquer la puissance de l'Empire. Ça va aussi forcément donner des rivalités avec Rome, avec la papauté. Donc, comme je disais, il y a bien deux pilier en Europe, l'Empire et la papauté en l'an 1000. Alors après, j'ai cherché une représentation d'une zone en Italie, qui représenterait une ville. Et puis, j'ai trouvé qu'en Auvergne, quelque chose qui satisfaisait ce que je voulais dire, c'est-à-dire l'expansion de la population, qui vers l'an 1000 est déjà nette. À partir de là, il a fallu soit rénover les villes antiques qui avaient bien souffert dans cet intervalle, ou bien créer des villes neuves. Là, on est sur une ville, on peut bien la repérer. Il y a autour une enceinte qui encercle tout, des maisons qui sont serrées les unes contre les autres, des ruelles étroites, un château au-dessus et quelques églises dedans. Peut-être même quelques tours qui existent ailleurs. On voit aussi sur les côtés des faubourgs. Bientôt, il y aura plus de maisons, énormément de maisons, même qui vont sans doute se mettre autour. Donc voilà un peu ce qui arrive à cette période. C'est une période de dynamisme économique, de dynamisme démographique. Et donc, ça touche bien évidemment aussi l'Italie. On appelle l'Italie le pays des 100 villes à cette époque-là. Donc il y a une démographie importante. Bon, elle est quand même relative. On en est à 8-10 millions d'habitants, d'après ce qu'en disent les démographes et les historiens. Alors, le problème, c'est que ces petites villes, bien défendues, avec un seigneur souvent, parfois un évêque, s'arrogent beaucoup de droits. Elles vont essayer d'abord d'organiser la ville avec un gouvernement, et puis elles vont essayer de s'éloigner de ceux qui devraient les chapeauter. L'empereur d'Allemagne en fait partie. Donc, on a des clans qui se constituent en dirigeants, et qui vont essayer d'organiser la police, de fixer le montant des impôts et des taxes, d'éditer des règlements, éventuellement de battre monnaie pour les grandes villes. Alors, on arrive, j'ai repris la classification qu'a fait Patrick Boucheron, pour montrer un peu comment ça a évolué vers la période qui nous intéresse. Et on a d'abord le siècle des consuls, dit-il. Et je vous lis rapidement ce qu'il en dit. Consul, le mot lourd de sens est lâché. Il est lesté de cette autorité du passé que transporte le latin. Plus loin, s'il se désigne comme tel, c'est sans doute moins en référence aux institutions romaines qu'aux pratiques politiques qu'elles suggèrent. Consulere signifie délibérer. Et les hommes qui prennent en main le destin de leur cité, souvent comme on va le voir, de riches aristocrates, ne font rien d'autre qu'organiser sur des bases radicalement neuves le pouvoir des cités à s'administrer elles-mêmes. Un pouvoir fondé sur la délégation de l'autorité souveraine à un collège de représentants élus qui agissent collectivement. L'idée de délégation est donc déjà là. Telle est la première définition qu'on pourrait donner de la commune, une expérience donc, davantage qu'un régime, faite de pratiques politiques que ne fige nulle institution écrite. Alors, on a ces communes qui essaient de s'organiser, qui essaient de s'éloigner du centre, disons, et partout, pas qu'en Lombardie, bien sûr, eh bien, le centre, l'Empire, il va réagir, mais il va mettre quand même du temps. Et c'est après 1150 que Barberousse, facilement reconnaissable donc à ce détail pileux, qui est à côté de ses deux fils, le roi Henri VI, qui sera un boucher, et le duc Frédéric VI, dont j'ai jamais entendu parler. Alors, ce Barberousse descend donc avec ses armées en Italie pour rétablir l'ordre, disons. Il commence par passer du côté de Milan, il arrive à entrer dedans, il va raser tous les bâtiments publics milanais, et donc c'est une. Ça commence bien, disons, pour lui. Mais assez rapidement, les Milanais vont venir. Et on a ici, voilà, à Milan, on a un arc, la Porta Romana, donc qui est un arc de triomphe dans notre style, mais qui est une porte en fait, c'est vrai, et sur lequel on va trouver des bas-reliefs. Il y en a plusieurs, il y a des choses qui sont sur l'Antiquité, mais il y en a deux qui nous intéressent. C'est le retour des Milanais après le passage de Barberousse. Et en bas, on voit l'ouverture des portes de la ville aux troupes lombardes victorieuses. C'est un peu après où il y a eu d'autres batailles et où ils ont réussi à mieux exercer, disons, leur puissance. Là-dessus, il y a une grande bataille qui va arriver, c'est celle de Legnano. Et alors, c'est un tableau du 19e, il jure un peu, mais enfin, j'ai pas trouvé mieux. Et cette bataille va être décisive, puisque ils vont réussir à vaincre l'armée de Barberousse. Après, il y aura des négociations, c'était 1176, il faudra attendre 7 ans, et il y aura un traité de Constance qui permet à ces villes d'obtenir la reconnaissance de leur liberté tout en acceptant la souveraineté impériale. Mais l'empereur ne va plus intervenir réellement dans la cité. Encore que vont arriver des batailles, vous vous en souvenez, entre les Guelfes et les Gibelins. Et les Gibelins représentent bien évidemment l'empereur. Mais enfin, c'est plus compliqué que ça. On en reparlera un peu. On est donc toujours dans ce siècle des consuls. J'ai une représentation de Florence à cette époque, puisqu'il faut bien qu'on y revienne. C'est une cité qui prend de l'importance. Cette représentation est bien après, hein, 1342, c'est la plus tôt que j'ai pu trouver. On reconnaît quand même le baptistère ici, peut-être la cathédrale derrière, des bâtiments, des tours qui sont nombreuses, des créneaux, ici la limite, l'enceinte. Et d'ailleurs, ils sont visiblement guelfes, avec ce U, et c'est pas les V des Gibelins. Et donc, d'ailleurs, la ville est vraiment la ville guelfe par essence. Les Gibelins ne reprendront le pouvoir qu'à deux reprises, et ça va durer une dizaine d'années les deux. C'est uniquement parce que Florence a été battue sur le terrain par des Gibelins, qu'ils ont installé des Gibelins au pouvoir, et qu'ils n'ont pas pu rester. Donc c'est la ville guelfe, malgré, on verra bien, des problèmes ultérieurement. Cité importante, Guelph et Gibelin. Je ne dis pas, je vous rappelle, Guelph pape, Gibelin empereur. C'est facile à s'en souvenir. Alors, ce sont des consuls, mais ce sont des aristocrates, en fait, qui dirigent le plus souvent les villes du Nord et Florence en particulier. Ils vont encore rester longtemps. Ces aristocrates ont pour manie d'édifier des tours. Quand on était à Bologne, on a bien vu, c'était assez impressionnant de voir ces tours incroyables. À Florence, on n'en voit quasiment plus, mais néanmoins, on estime qu'il y en avait 200 en 1300. Donc c'est complètement énorme, surtout que la ville était beaucoup plus réduite qu'aujourd'hui quand même si c'était une grande ville. Et en général, ils sont remplis de soldats. Et quand ils sortent des tours, c'est pour casser la tête des gens qui sont dans le coin ou d'une autre branche de la noblesse ailleurs. Donc c'est une ville compliquée, mais les autres aussi, et dans lequel il a fallu trouver une solution. Et partout, on a eu un peu la même idée, ça a commencé à Pise, c'est de mettre ce qu'on appelle un podestat, un magistrat, chef militaire, qui s'occupe aussi d'administration, son rôle c'était de régler les conflits. Il avait du boulot, hein. faut pas trop s'illusionner là-dessus. Alors j'en ai un ici, j'en ai trouvé un présentable qu'à Milan, il est très bien, vous voyez, beaucoup de prestance. Et le podestat était dans ce palais du Bargello, que tous ceux qui ont été à Florence ont visité, qui est quand même quelque chose de majestueux. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, ce qui est original, c'est qu'il est étranger à la commune. On ne prend pas quelqu'un de la commune. Comme ça, il peut avoir un recul par rapport aux affaires à démêler, disons. Et il est en général, donc je l'ai déjà dit, des aristocrates. Mais c'est le moment où commence à monter une force qui est le popolo. On va en reparler. Il est central dans tout ça. Alors, une remarque quand même sur le podestat. Il y en avait à la période médiévale. Je ne sais pas trop quand ça s'est arrêté, mais ça finit par s'arrêter. Et puis, il a été remis au goût du jour il y a un peu moins d'un siècle. Puisque sous le régime fasciste, c'était en 26, les organes démocratiques des communes sont suspendus. Et toutes les fonctions occupées par le maire, les commissions et le conseil municipal sont transférés à un podestat nommé par décret royal pour 5 ans et révocable à tout moment, évidemment. Il est assisté d'une assemblée municipale consultative composée d'au moins 6 conseillers nommés par le préfet. Et voilà donc cette Italie pour laquelle les communes prennent beaucoup de place. Alors la commune, c'est un régime politique. Hein, c'est bien une autorité politique qui va gouverner la commune. Et curieusement, quand on regarde cette carte, qui était aussi dans un article de Boucheron de l'Histoire, eh bien on voit que la zone sud, qui à cette époque, on est à la mort, enfin avant la mort de Frédéric II, il n'y avait pas de commune, il les avait empêchés partout. Frédéric II est empereur d'Allemagne, c'est un Hohenstaufen comme qu'il était Barberousse, et c'est un empereur très très important qui va diriger vraiment, il va reprendre Jérusalem sans bataille. Il va avoir une politique tout à fait intéressante. Mais il est évident que c'était un autocrate et qu'il ne voulait pas tellement qu'il y ait de concurrence avec les communes. Donc, quand on regarde, ce système, et je pense à Pierre avec ce nord-sud dont on a parlé sur la liste, eh bien, peut-être est-ce une autre cassure qu'on a rencontrée à cause de l'occupation allemande, puis espagnole, et française, je veux dire française et après espagnole. Les États de la papauté sont ici, en vert pâle, on remarque qu'il y a pratiquement autant de communes qu'au nord. Donc, ce phénomène des communes au début est gouverné par des aristocrates et général dans le nord de l'Italie. Alors, on est toujours au temps du podestat et durant cette période, on va aussi commencer à créer de nouvelles institutions qu'on va appeler les institutions populaires. Alors, on est toujours vers 1250 et en 52, Florence met en place le florin. On a vu que ça vient d'un mot latin, florenus, et ce florin d'or va devenir, d'autres limites, mais c'est bien cette monnaie qui va devenir la monnaie européenne pour les grosses affaires. Les autres gens n'auront pas cela. Les personnels des entreprises florentines sont payés avec un florin d'argent, à taux variable en plus. Donc j'en parlerai pas après, mais c'est encore un des éléments du conflit. Mais ceux-là, ils gardaient leur valeur. Donc, une monnaie importante, les Génois font pareil, les Vénitiens vont suivre avec le séquin, et l'écu d'or va arriver avec Saint-Louis. Alors, on arrive le temps du popolo. J'ai cherché une représentation du popolo à Florence, j'ai rien trouvé. Donc, je vous ai mis la Piazza del Popolo à Rome, qui est superbe, pour soutenir mon titre que je ne voulais pas mettre tout seul. Alors, le popolo, ben, c'est pas comme en France, le populo. Hein. Le popolo, c'est ce qui rassemble tous les Florentins qui ne sont pas nobles. Donc ça fait beaucoup de monde. En fait, quand on parle au nom du popolo, c'est pas tout le monde qui parle, c'est la haute bourgeoisie. C'est elle qui dit le popolo, etc., tout le temps, dans tous les discours. Alors on va essayer de voir un peu comment fonctionnent les classes sociales et les corporations. Je répète, sinon on va rien comprendre à la suite de l'histoire. Alors, les nobles d'ailleurs, en premier. Donc ces nobles, ce sont des petits seigneurs qui étaient dans les campagnes et puis avec l'insécurité qu'il y a eu à certains moments, ils ont commencé à se rapprocher des villes et puis ils ont commencé à édifier des tours dans les villes. Mais la nouveauté extraordinaire à Florence, c'est que les nobles vont être complètement marginalisés. En France, il faut attendre la Révolution pour qu'il y ait des changements sur la domination sur le pays. Là-bas, non. D'entrée, le popolo, qui va être très riche, il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est aussi ça la grande raison, qu'il va y avoir des entreprises de niveau européen, eh bien ce popolo, il va marginaliser, stigmatiser ces nobles sous le nom de magna, ou magna, je dirais magna, j'essaierai. Voilà. Et peu à peu, ils vont disparaître, ils vont préférer entrer dans le popolo plutôt qu'avoir des gros problèmes. On va voir que c'est encore un conflit avec les nobles qui va lancer, qui va être l'étincelle pour le mouvement des Ciampi. On a le clergé qui n'est pas du tout quelque chose de négligeable, vous en doutez bien. On est en Italie, Florence n'est pas la ville du pape, hein, même s'il y a des liens, mais néanmoins, il y a un clergé omniprésent. 3% de la population, ça veut dire que quand on regarde 30 personnes qui passent, il y en a un qui est habillé dans un système soit religieux, soit quasi-religieux. Donc ça représente beaucoup de monde, ce clergé. Alors aussi qu'il a une importance, même s'ils ont été très peu au pouvoir à Florence. Il y a d'autres endroits où les évêques prennent le pouvoir, là ça n'a pas été le cas. Le popolo grasso, le peuple gras, dans la Florence médiévale, c'est la haute bourgeoisie. On verra des chiffres plus tard. Il y a des industriels et des commerçants, et ce sont eux qui vont s'organiser en arti. Arti, c'est les arts, on dit en français, les corporations. Et donc, on va avoir des arti principaux dont on va parler très bientôt, et ils vont n'avoir qu'une hâte, c'est de remplacer les nobles au pouvoir. Il y a le popolo medio. Petite et moyenne bourgeoisie, des artisans et petits commerçants qui s'organisent en petits et moyens arti. Et ils vont participer au gouvernement. Pas toujours, ça ne va pas être simple. Des fois, ils vont même être dominants, c'est très rare. Mais c'est arrivé, et puis finir par ne plus y être. Mais enfin, voilà donc la suite de ce peuple. Et puis il y a les derniers, le Popolo Minuto. C'est le petit peuple, les pauvres, les exclus des artis et du gouvernement. Certains sont dans les artis, mais ils n'ont aucun droit. Donc ça n'arrange rien. Au contraire, ils ont une double justice, il y a celle de la ville et celle de l'arti. Et comme la justice de l'arti, c'est quelqu'un qui est nommé par le patron de l'entreprise où il travaille, il vaut mieux pas demander un arbitrage. Il représente 60% de la population, et même plus, on le verra plus tard. Il est constitué des membres mineurs, c'est ce que je viens de dire, très peu de droits, et des sotto-postiles, les soumis, qui n'ont que des devoirs. Et puis il y a les hors-arts, j'ai mis services et métiers indignes. Effectivement, il y a des métiers qui ne sont pas dignes d'avoir un art, donc on ne va quand même pas leur en donner un. Il faut être autorisé par la puissance pour s'associer. Il est évident que la grande bourgeoisie n'a pas intérêt à ce que se créent des systèmes de collaboration entre les sotto-postis, par exemple. Et donc il l'empêche, et c'est même sévèrement condamné. Donc, ces corporations sont au centre du dispositif économique et social florentin. C'est aussi celui du gouvernement. Alors, on va maintenant rentrer un peu plus dans les corporations. Voilà une liste générale. Enfin, j'ai trouvé cette représentation, c'est intéressant, on ne va pas en parler tout de suite. Au départ, elle s'occupait surtout de la vie professionnelle, c'est de voir comment fonctionnait le système. Et puis peu à peu, elles ont engagé un rôle politique, un peu comme des syndicats patronaux au départ, disons, hein. Mais là, peu à peu, elles vont rentrer dans la politique et puis elles vont prendre le pouvoir, elles vont être au cœur de la transformation. Alors, tous ont un capitaine ou gonfalonier, ce mot va revenir souvent, un blason, un saint patron. Commençons par les sept arts majeurs. Alors, ceux-ci sont mentionnés là en français et en italien d'abord. Arte di Calimala, c'était une petite ruelle dans Florence où a été créé cet art di Calimala. Alors, vous voyez, en haut, il y a marqué Arti di Calimala, parce qu'aussi on appelle l'ensemble des sept les Arti di Calimala. Mais il y en a un qui a été le premier, celui des draps. Florence est une ville productrice de draps et il garde son nom ancien. Après, il y a le change et les banques. Arte della seta, il dit pour Santa Maria. C'est les soyeux, c'est la soie et les orfèvres. Mais le port Santa Maria, c'est le nom d'une rue aussi. Donc il garde toujours des noms. Après, on a la laine, quelque chose d'important. Les pelletiers et les fourreurs. Je ne savais pas que les pelletiers étaient ceux qui fabriquaient, enfin qui fabriquaient, qui taillaient la fourrure. Et les fourreurs, c'est ceux qui la vendent. Comment?
Les pelletiers, c'est ceux qui amènent les animaux, si vous voulez.
C'est ça.
C'est ce qu'ils vont les chercher et qui les ramènent, les pelletiers.
Ah ben moi j'ai lu qu'ils préparaient tout. Les fourreurs étaient ceux qui vendaient. Mais bon, j'ai une science toute nouvelle là-dedans, alors je ne.
Ils travaillent leur fourrure.
Oui, c'est ce que j'ai lu. Hein. Ouais. Alors après, il y a les juges et les notaires, et les médecins et les apothicaires. Je vais revenir sur deux arts, le Kalimala. Parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les draps là-dedans. Il y a aussi les importations d'épices, de parfums, de bijoux, d'étoffes précieuses et l'exportation du blé, créé en 1193, tout ça. Les autres, c'est plus limité, c'est ce qu'on voit là, mais les médecins et les apothicaires, ils ont aussi les barbiers, sans doute comme en France à l'époque, les épiciers, merciers, marchands de couleurs, pour le secret de leur fabrication. Et pour ces dernières raisons, les peintres leur sont associés. Oui, les peintres ont une position haute, mais il y en avait très peu qui auraient une position haute réellement. Voilà donc pour ces arts majeurs, les arts mineurs. Ah oui, c'est une autre présentation que j'ai mise sur pas grand-chose. Donc c'est les blasons. Les arts mineurs, il y en a 14. Bon, ben c'est plus les boutiquiers, les gens qui sont artisans qu'on va rencontrer là. Il y en a une corporation qui est importante, c'est les bouchers. Qui sont toujours, moi je vois à Limoges où on va, ils sont souvent, on voit encore la rue des Bouchers, c'est une corporation importante et ailleurs aussi, sans doute. Bon, armuriers et fourbisseurs. Fourbisseurs, j'ai regardé aussi, c'est ceux qui polissent les armes, qui les rendent présentables, qui les nettoient. Et c'est vrai qu'avec ces armes blanches qu'il y avait à l'époque, il fallait que le fil soit acéré, donc ils avaient un rôle probablement important. Voici donc pour ces arts mineurs. Il faut noter que même dans les arts mineurs, ce sont ceux qui ont les moyens d'entrer dans l'art qui y sont, parce que c'est cher les cotisations. Donc c'est les gens les plus importants de métier qui dominent. Les petits employeurs ne sont généralement pas dans le coup. Alors, plus loin, je n'ai pas. J'ai ce dessin, bien sûr, mais c'est tout. Mais il existe aussi des gens qui sont hors art. Je ne sais pas si vous pouvez un peu lire. Oui, ça doit aller. Oh, j'ai commenté de près. Mais il existe donc des métiers qui ne sont pas représentés. Les poissonniers, le prolétariat urbain, le monde agricole. Les ouvriers plus le monde agricole, ça fait beaucoup de monde quand même. Et donc, ils ne sont pas représentés. C'est ce qui va être le Popolo Minuto et les Ciompi. Alors, on voit ici qu'on a les arts majeurs. Et quand on regarde les chiffres, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait énormément de notaires dans ce pays. Et donc, on a des papiers incroyables et on a pu retrouver le nombre des habitants à partir des impôts. Même ceux qui ne payaient pas d'impôts étaient référencés. Et donc, il y a un livre fabuleux dont je vous donne... Ah ben, il est là. La révolte des Ciompi, Alessandro Stella. Et c'est quelqu'un de l'école des hautes études en sciences sociales. Et dedans, c'est un livre qui est presque illisible parce qu'il y a des tableaux partout. Mais néanmoins, il y a des synthèses saisissantes. Et j'ai retenu ce tableau. Quand on prend les arts majeurs ici, ils sont 660 chefs de famille, ce qui représente 13,6% en 1352. Les mineurs, 1300, 27%. Et les hors arts vont être 2800, ce qui fait 60%. Mais 50 ans plus tard, les chiffres ont encore changé. Ça a un peu augmenté le nombre, mais la proportion s'est effondrée. Ici, ça stagne, on passe de 27% à 16%. Et les gens qui sont en dehors du coup, en 1400, ils étaient 60% en 1350, ils sont 75% à cette époque. Donc, on a quand même une représentation qui est intéressante. C'est pour ça que Florence a été très étudiée. Il y a d'autres livres aussi sur les salaires à Florence qui sont tout à fait intéressants. Vraiment, on a retrouvé énormément de choses, ce qu'on ne va pas retrouver de la même manière chez nous. Voilà, j'avais parlé démographie, voilà une courbe qui nous montre que j'en arrive à la toile de fond, disons, des événements à Florence et au niveau européen. On va trouver augmentation de la population liée au réchauffement climatique de l'époque. Je plaisante un peu, mais c'est vrai, il n'y a aucun doute. Et on va avoir ici le ralentissement, puis un petit âge glaciaire. Et c'est lui qui va commencer la descente. Il est clair qu'ici, ce n'est pas marqué, mais c'est la grande peste, la peste noire, je veux dire, qui va aussi provoquer l'effondrement. On a pratiquement, dans les estimations, la moitié de la population européenne qui meurt à ce moment-là. Pour ce qui nous intéresse, on va être par ici. Donc on est sur un moment où il y a eu déjà des crises en Italie, violentes, dont je ne vais pas parler, parce que je n'en ai pas le temps, mais les révoltes sociales sont nombreuses. C'est la crise dans l'Église. Les papes partent à Avignon, sous l'influence du roi de France, c'est bien clair. Ça va durer de 1309 à 1376. Le dernier pape français, Grégoire XI, revient. Il en meurt, le pauvre homme. Le bateau ne lui a pas réussi. Enfin, il est mort quand même un peu après, deux mois après. Et, automatiquement, son remplacement provoque le grand schisme d'Occident. Cette fois-ci, il y a un pape à Rome et un pape à Avignon. Ça va durer 40 ans. 1378, 1417. Le Saint-Empire n'ose plus trop s'aventurer un peu partout. Il reste vraiment sur la zone germanique. Donc les deux piliers de ce monde sont en crise. Donc c'est compliqué. Crise démographique, enfin, des tas de problèmes. Les Français et les Anglais, pendant ce temps-là, sont bien occupés à se taper sur la tête mutuellement avec cette guerre de 100 ans, qui dure 118 ans. La peste noire, j'en ai déjà parlé. Elle frappe donc durement aussi l'économie florentine, moins que Sienne, qui est presque anéantie par tout cela. On lui doit un chef-d'œuvre quand même, il faut quand même remarquer qu'il y a toujours des petits espoirs de tout ça. C'est le Décaméron de Boccace qui parle de la Florence, de la peste noire. Et l'activité économique ne va pas être brillante du tout, vous en doutez. Une partie tout de même des salariés n'y perdent pas. Comme il y a moins de monde pour travailler, les salaires ont monté. Les salaires font des zigzags à cette époque-là. Ce ne sera quand même pas le cas en 1378. Alors, on en arrive à la République de Florence. J'ai pris ce tableau qui n'était pas inintéressant pour voir à partir de 1300 la puissance de Florence qui augmente. Donc la petite zone violette, puis autour, c'est pas très net hein, les différences de couleurs, enfin il s'éloigne un peu, Pistoia, Prato, Volterra, c'est pas des petites villes. Après il continue avec la zone plutôt marron, et on va s'arrêter là. Bon il continue, on voit quand même que ça devient pratiquement toute la Toscane, si on accepte Sienne qui résiste tout de même. Pise est tombée, ça a été la grande concurrence avec Pise, et finit par tomber après une grosse défaite navale face à Gênes. Alors, les grandes compagnies florentines ont la plus forte valeur capitale, donc en capitale d'Europe. C'est très clair qu'ils dominent. Ils inventent des choses comme la comptabilité double, qui est une nouveauté. Et on va arriver donc à un moment où les conflits à Florence, j'ai dit qu'ils étaient permanents, mais il y a un moment donné où ils s'accentuent et où cette grande bourgeoisie veut vraiment prendre le pouvoir, y arrive et va créer en 1293 des ordonnances qu'on appelle les ordonnances de justice. C'est ce qui vise à affaiblir les magnats. Ils vont ne plus pouvoir accéder à l'essentiel des postes de responsabilité. Le Popolo Grasso va être donc au pouvoir, il va s'opposer à ses magnats, mais aussi aux petits. Donc ça va être tout le sens de ces nouvelles ordonnances, c'est de conforter le pouvoir des plus puissants. Alors, la Signoria, c'est le gouvernement de Florence. C'est la République de Florence, maintenant, dont on parle. Elle est apparue en 1282. Elle a 9 membres des prieurs qui sont choisis dans les rangs des guildes. Des guildes, on dit les trois mots. Hein, art, guilde ou corporation. Et ils sont donc issus des corporations majeures. Mais ils ont, pour arriver à 9, il va y avoir à tour de rôle 2 membres des corporations mineures. Et il y aura aussi un gonfalonier de justice qui va représenter l'un des quartiers de la ville. Pour sélectionner les membres de ce pouvoir, on va pratiquer par tirage au sort. C'est le système florentin. Mais tirage au sort dirigé. Il y a des noms dans des bourses. Pour être là-dedans, il faut être à Florence depuis plus de 30 ans. Il faut avoir une belle maison. Il ne faut pas avoir de dettes, etc., etc. Il ne faut pas avoir été élu récemment. Il y a un système tournant pour éviter les dictatures. Donc, il y a des choses positives, des choses qui le sont moins. Cette république est une république, disons, réservée à un nombre restreint de républicains. Donc, on tire au sort, etc. Il y avait 2 autres conseils qui étaient élus et qu'il fallait consulter. Le premier était constitué de 12 membres, les Dodici Buonomini. Buonomini, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça doit être un nom. Les bons hommes, bon. Les 12 bons hommes. Et le second de 16, les Celici Gonfalonieri. Ce sont des gonfalonniers qui représentaient les différents quartiers à Florence. Alors je vais ajouter quelques mots sur le système politique florentin pour conclure, remettre un peu tout ça droit, et puis on va attaquer vraiment la partie Ciampi. Alors, il va perdurer, disons 1293, l'arrivée de ces ordonnances, jusqu'à 1434. Auparavant, on a quand même les Albizi qui sont aussi de très riches bourgeois. Alors, j'ai dit, on part des ordonnances de justice. La grande bourgeoisie d'affaires va gouverner. La volonté d'éloigner du pouvoir les grands ou magnats est évidente, ainsi que le petit peuple qui n'a pas le droit d'association. Les charges publiques sont de très courte durée. 2 mois pour les prieurs, 6 mois pour les podestats. Au début, c'était 1 an, après c'est 6 mois. Et les capitaines du peuple aussi. Brièveté renforcée par l'inéligibilité immédiate et qui se justifie par la crainte d'une dictature, ce que j'ai déjà dit. Donc quoi, quand on parle en dehors de son texte, c'est toujours embêtant. Point suivant. Les podestas et capitaines du peuple, c'est un étranger à la ville qui les tient. Curieusement, ces deux postes, sont exercés par des nobles. Sans doute pour qu'ils n'appartiennent pas à un des clans de la bourgeoisie qui sont en conflit. Et aussi, c'est intéressant pour les relations avec les autres États, qui eux sont dirigés par des nobles. Ou des gens qui sont devenus nobles. Faut pas qu'on oublie non plus les comtes de Thierry qui se mettent à diriger des villes. Crainte pour tout le monde des élections directes. On ne veut pas en entendre parler. Donc on a bien des membres élus par les prieurs et quelques citoyens qui donc vont remplir ce qu'on appelle les bourses. Et en outre, précaution supplémentaire dont là j'ai pas parlé, on institue la balia, B-A-L-I-A, qui est le droit accordé aux prieurs, aux podestas et aux capitaines du peuple, après avis des conseils des arts et des sages dont j'ai parlé, eux-mêmes désignés par les prieurs, de décider en dernier ressort de toute affaire importante. Et on va voir que ces balias, on en crée quand il y a un problème. Enfin, démocratie très limitée, puisqu'on estime qu'il y a seulement 5000 des 100 000 Florentins qui pouvaient être proposés aux prieurs. 100 000, c'est à peu près la population entre 100 et 120 000 vers 1300. Après, elle diminue nettement. Alors, là, je suis tombé sur une guerre dont j'avais jamais entendu parler, qui est l'étincelle qui va créer la révolte des Tchompi, le tumulte des Tchompi. On verra sur ces mots ultérieurement. C'est la guerre des huit saints. Il y en a qui connaissent ? Non, ben vous voyez, je n'étais pas le seul. Mais maintenant, j'ai un savoir tout neuf. La papauté décide, c'est une guerre importante, en plus quand on lit ça, après on est un peu estomaqué, décide de revenir à Rome. Ce qui ne plaît pas du tout à Florence et à Milan, parce qu'ils se disent, ils vont venir, ils vont vouloir plus de terrain, etc. Ça va être fort compliqué. Donc ils essaient de leur mettre des bâtons dans les roues, et ils créent une alliance tout de suite, la zone Toscane avec la zone du nord autour de Milan. Alors, à ce moment-là, le pape avait récupéré le fameux John Hagwood, un condottiere, dont on trouve la statue à cheval dans l'église Santa Croce à Florence, à gauche en avant. Et alors, il l'avait acheté 10 000 euros. Mais Florence décide de retourner ce condottiere. Et l'église l'avait payé, le pape l'avait payé 10 000 euros, il décide de taxer tous les systèmes ecclésiastiques de Florence, ils créent une commission, un balio, réunissant que des prêtres, ils sont 8, et ils vont se mettre à récupérer l'argent, et ils ont 130 000 florins. Contre les 10 000 du pape, ça ne fait pas le poids, ça fait le poids, plutôt plus que le poids, et ils achètent ce condottiere qui ne va plus du tout vouloir batailler, il reste de l'autre côté pour l'instant, il ne va plus vouloir batailler. Et en plus, ils envoient des hommes un peu partout dans les villes qui sont dans l'espace des territoires de l'Église, et ils sèment la zizanie. Bon, bien sûr, un cardinal dont je n'ai pas retenu le nom prend à la place de l'anglais la tête, mais ça marche assez mal. Bon, c'est très compliqué. Mais heureusement pour le pape, il a une arme atomique, l'excommunication. Donc, il excommunie Florence, il le met sous interdit même, et il invite tous les monarques européens à virer les Florentins et ne plus commercer avec eux. Charles V s'en bat l'œil complètement, mais bon, ça crée quand même des tas de troubles dans le commerce florentin ailleurs. Ce sont des vrais problèmes. Il n'y a plus de messe à Florence pendant un an et demi. On est quand même dans des régions où ça a un sens. Hein, je ne dis pas que l'église domine la ville, mais en tout cas, quand il n'y a plus de messe, quand on ne peut plus se marier, quand on ne peut plus enterrer les gens, y a quand même un problème. Et ça dure un an et demi. Alors, le pouvoir remplace les messes par des processions, avec des flagellants, avec des tas de trucs, mais ça ne vaut pas une bonne messe quand même, tous ces trucs-là. C'est pas trop que ça râle finalement, mais bon, c'est un véritable désastre. Et en plus, dans Florence, il y a une véritable guérilla interne entre le parti guelf. Le parti guelf est pour le pape, normalement. Et ce sont les aristocrates qui sont regroupés là-dedans. Et le pouvoir, qui lui veut continuer cette guerre, il ne veut pas céder. En plus, le pape demande, je ne sais plus combien, je crois que c'est 1 million de florins pour arrêter la guerre, en plus. Parce que, bon, il n'est pas content du tout, ce pauvre homme. Alors, ce qui représente le pouvoir, c'est ce qu'on appelle les huit de la guerre, qui sont contre la curie, il n'y a aucun doute. Et il y a vraiment des troubles importants. C'est cela que l'ironie populaire va nommer les huit saints, les huit de la guerre. Il y a des doutes. Il y en a qui disent que c'est les huit prêtres qui ont récupéré les 130 000 florins dans les paroisses. D'autres disent que c'est cet organisme. Bon, là-dessus arrive au mois de mai 78, comme gonfalonier de justice, un démagogue, il faut le dire, portant un nom qui deviendra prestigieux, Salvestro di Medici, un cousin de Giovanni de Médicis, dit Giovanni di Bicci, fondateur de la dynastie. Alors les Guelfes, un peu comme le pape a excommunié, eux, y prononcent des proscriptions. Et si on attribue à quelqu'un l'infamie d'être gibelin, eh bien, c'est pareil qu'être excommunié. On n'a plus le droit de les voir, on doit les virer de la ville, les bannir. Donc c'est très compliqué l'affaire. Les gens de la Seigneuria réagissent. Et tout de suite, ils vont décider de remettre en vigueur immédiatement les ordonnances de justice contre les nobles. Donc il y a une bagarre entre les deux mouvements qui sont forts. Mais dans les prieurs de la ville, il y a probablement des gens un peu du côté des nobles qui sont masqués. Et là, ils refusent ce que demande le Sylvestre, le Salvestro. Et alors, on est le 18 juin 1378. Et Salvestro, qui ne fait pas un appel, dit « Sage du conseil, je voudrais guérir cette cité de la malfaisance, tyrannie des grands et des puissants. Et on ne me laisse pas faire. On ne me croit pas. Donc, puisqu'on ne me suit pas, j'estime n'avoir plus rien à faire comme prieur ou comme gonfalonier de justice. En conséquence, je décide de me retirer chez moi. Faites un autre gonfalonier et arrangez-vous avec Dieu. » Tandis que drapé dans sa dignité, Salvestro gagne l'escalier, les membres du conseil jouent également leur rôle. Certains le retiennent, le ramène dans la salle où l'on commençait à récriminer vigoureusement. C'est alors que Benvenito di Nisosio degli Alberti se présente à la fenêtre de la salle et se met à crier « Vive le peuple !» et à dire à ceux qui étaient sur la place « Criez, vive le peuple !» C'est pourquoi aussitôt la rumeur s'éleva dans la ville, les boutiques furent fermées et les gens commencèrent à prendre les armes. Le temps de la modération et des compromis était révolu. Alors, on a plein de chroniqueurs qui racontent, des gens de dedans, qui racontent un peu tout ce qui s'est passé dans cette période. Et immédiatement, il y a des émeutes, il y a des incendies, il y a les portes des prisons qui sont ouvertes. Donc, on est devant quelque chose d'assez important. Ne vous inquiétez pas trop, ce sera pire plus tard. Le 22 juin, donc après des jours difficiles, une émeute conduite par les fourreurs renforcés par les détenus libérés de prison incendie l'un après l'autre une douzaine de palais et ils s'en prennent au couvent. Il s'en fallut de très peu que le trésor communal ne fût pillé. La confrérie des charcutiers, heureusement, passait par là et a sauvé le trésor communal. Alors, à ce moment-là, ils ont commencé à attraper, pas tout à fait au hasard, des personnes. Ils en ont pendu 5 à différents endroits de la ville. Le problème, c'était des Flamands, paraît-il, avec un chapeau spécial, donc il y avait une certaine xénophobie vis-à-vis de ces Flamands. Mais enfin, ça a freiné les ardeurs, disons, tout ça. Alors, pour essayer de calmer en plus le jeu, on crée donc une balia de 80 membres qui va prendre des arrêts pour calmer tout, décider que les décisions des Guelfes n'étaient pas tout à fait légales. De la même manière, il ne fallait pas remettre au banc de la société des nobles. Ça reste tendu. Et au début juillet, on sentait l'arrivée d'ennui. Et après, on a quand même un premier élément sur Les revendications, vous savez, c'est un peu comme les gilets jaunes. Ils cassaient un peu tout, mais... enfin, je dis pas qu'ils cassent tout, d'ailleurs. Mais enfin, je veux dire, il n'y avait pas vraiment un bloc de revendications structuré. Ah, c'est pareil, il y en sort un premier vers le 8 juillet. Alors celui-là, il est quand même très doux. Il n'allait pas vers le renversement de l'ordre établi. On peut dire qu'ils étaient aussi hostiles à l'arrogance des gras qu'aux outrances des tchompis. Ils souhaitaient rester dans le cadre corporatif traditionnel, égalité civique des petits marchands et des hommes d'affaires internationaux, des rentiers et des magnats, etc. Donc on a quelque chose d'assez conservateur, mais il y avait tout de même une révolte aussi de ces couches moyennes, et c'est ça qui avait déclenché un peu le mouvement. La revendication fondamentale aussi était l'institution d'art supplémentaire pour les petits, disons. C'est un moment où finalement arrive une deuxième nouvelle. C'est la fin de la guerre des huit saints. Le pape est reparti à Rome. Par Avignon, Marseille, tempête, ça a été un voyage épouvantable. Il était tout secoué, le pauvre homme. Il arrive à Rome vers Noël et il va mourir en février. Et je vous ai dit après la suite, c'est que ça ne résout rien puisqu'un nouveau pape est élu à Rome, mais les Français se débrouillent pour en élire un à Avignon. Et Cameron XI est d'ailleurs le dernier pape français. Donc il faut le saluer pour cela. Alors, à nouveau, ça relance, parce qu'en fait, il y a une fête énorme qui se fait dans Florence, et forcément, vu que les gens, le sang est très chaud à ce moment-là, ça crée encore des troubles. Et c'est là qu'on va voir que les... J'ai oublié de passer cet élément. Alors, je repasse un plan de la ville, ça se passe vraiment dans le centre, et peu à peu, les tchompis sentent qu'il est possible de faire quelque chose, surtout avec une alliance avec les couches moyennes. Et ils vont commencer à se réunir, ce qui est interdit, il ne faut pas qu'on l'oublie, hein, pour réussir à créer un événement et prendre le pouvoir. Et vers le 20 juillet, les prieurs se doutent de quelque chose et ils font arrêter quelques meneurs. Ils les torturent et ils arrivent à les faire parler. Et là, il s'avère que le lendemain, il devait y avoir des réunions et une insurrection de la part des moyens et des petits. Il est trop tard pour parer, disons, cette action. Alors, on en est au moment où les bruits de complot circulent. Les responsables sont torturés et ils donnent le plan de l'insurrection. Et le lendemain, les tchompis se rassemblent, puis vont à la Seigneuria, et ils brûlent des lieux, pas mal de palais, les endroits où habitent finalement les puissants. Les prieurs sont pris dans le palais Vecchio, et ils refusent d'en sortir. Mais ça se gâte, et les tchompis vont entrer dans la Signoria. Les prieurs l'ont quitté avant. Il y a très peu de violence à ce moment-là. On n'a qu'un mort, c'est le bourreau. Une manie italienne, c'est de les pendre par les pieds. Et Mussolini et la Mussolini. Donc le bourreau finit mal. Mais il n'y a qu'un mort quand même. Donc c'est pas une boucherie totale. Et là, un homme se révèle. C'est Michele di Lando qui va devenir le chef. C'est un contremaître dans l'industrie. Enfin, c'est de l'artisanat, c'est de l'artisanat d'une certaine importance. Vous voyez, il n'est pas en short, mais avec une petite tenue. Et il tient le gonfalon. Et c'est ça le signe. Les gonfalons, c'est l'étendard, c'est quelque chose de très fort. Donc il est représenté sur les deux représentations que vous voyez ici. Alors, c'est à ce moment-là, donc, un nouveau gouvernement, un nouveau pouvoir va être mis en place. Avec ce Michele di Lando, avec des gens qui sont issus des arts moyens et des petits arts, minuto, et ils vont donc obtenir satisfaction au moins sur ce plan. Et pendant 6 semaines, ce nouveau pouvoir va prendre quelques décisions, mais très peu. Et c'est ça le problème qui va se poser. Je montre quand même l'image suivante qui montre où est placée cette statue. Elle est toujours là. C'est la seule trace de la révolte des Ciompi à Florence. Vous voyez, il y a le Ponte Vecchio là-bas et c'est la petite rue qui continue. Et il y a c'est un marché et il y a un restaurant dedans le soir aussi. On est à 80 mètres, 100 mètres, disons, du pont hein, ici. Et il y a donc c'est l'endroit où il y a le sanglier. Je ne sais plus comment on l'appelle en italien. Le
Porcellino.
Voilà. Porcellino, qui est en dessous. Voilà donc. Alors, on arrive au moment où les Ciompi se disent, on s'est fait rouler dans la farine, on a des hommes au pouvoir, mais rien ne se décide, rien ne change. Et en même temps, la haute bourgeoisie ferme les usines. C'est le look-out. On se croit chez Margaret Thatcher qui avait fait fermer pas mal d'usines pour briser les syndicats. C'est la même chose qui se déroule là. Et à partir de là, ce sont des travailleurs journaliers, donc ils n'ont pas les moyens de survivre. Donc la tension monte. Ils vont se réunir. Je crois que c'est le 27, c'est ce que j'ai marqué. Ils se réunissent, ils désignent des représentants et demandent à ce qu'ils soient le gouvernement. Immédiatement, il y a des troubles dans la ville. Ça Louvois, les prieurs, dont une partie des gens viennent des couches les plus pauvres, Louvois. Et puis, le 31, il y a une réunion de tout le monde, sauf les Ciompi, sur la grande place de Florence, la place de la Signoria. Et là, les Ciompi vont être pris à partie et une partie massacrée. Il y aura une vingtaine de morts à ce moment-là. Donc on n'est pas non plus dans des échelles inouïes, parce qu'il y a 10, 20 000 personnes qui sont là. Bon, ils vont réussir à afficher le camp, mais c'est la fin de leur passage au pouvoir. Immédiatement, les décisions prises en faveur des Ciompi sont annulées, c'est-à-dire qu'ils doivent quitter le pouvoir, ils n'ont plus de prieur, les avantages qu'ils avaient eus sont supprimés, mais les arts mineurs gardent leurs nouveaux avantages. Il faut remarquer que Dilandi a dirigé la manœuvre contre ses compagnons et de la même manière, les arts mineurs ont participé au massacre. Ce n'est pas les arts majeurs qui ont massacré une partie des Ciompi. Voilà donc où on en est à ce moment-là. Ça va être une répression quand même très forte après. Il y aura, disons, des ratonnades qui vont se dérouler dans la ville. Beaucoup vont pouvoir partir, mais ça va être extrêmement compliqué. On a vu au début que cette période du tumulte durait 4 ans. 4 ans parce que une partie des acquis vis-à-vis des arts mineurs sont conservés. Mais en 1382, le Popolo Grasso reprend les choses en main. Il exclut Michele di Lando et il rétablit les statuts de 1293, ce qui fait que les arts mineurs sont à nouveau exclus pendant les 4 ans. Mais après, non. Et les Albizi, une très riche famille florentine, va prendre le pouvoir. Il y aura des expulsés chez les Ciompi, mais pas seulement. Des grandes familles florentines ont pris le parti des Ciompi. Les Alberti, dont j'ai parlé il y a quelques années, qui vont plus pouvoir revenir. Léon Battista Alberti ne reviendra qu'en 1428. Il y aura une amnistie de 30 ans quand même. Les Médicis sont des gros ennuis aussi au début, puisque c'est sur une initiative d'un Médicis que se déroule l'étincelle qui va lancer la révolte. Mais il est bien clair qu'ils vont bien louvoyer et qu'ils vont pouvoir revenir. Et c'est eux qui prendront le pouvoir aux Alberti ultérieurement. Alors, voilà en gros pour cette partie révolte. Je voudrais dire un mot maintenant sur les Ciompi. Il y a eu de nombreuses hypothèses qui ont été émises. On a parlé de Zombare, qui était du Toscan, qui venait donc une déformation, frapper, battre, percuter, comme faisaient les foulons. On a parlé de zombies, de boiteux. Bon. Mais aujourd'hui, l'hypothèse dominante est assez curieuse. On pense que c'est grâce aux zombies. Il y a eu un dictateur vers 1340 qui s'appelait le duc d'Athènes, qui en fait est un Français qui arrivait avec de nombreux Français. Son vrai nom était Gauthier de Brienne. Finalement, on l'a nommé gonfalonier et il est resté, il a fait des faces inouïes. Au bout d'un an ou deux, on l'a viré avec perte et fracas. Mais il est arrivé avec un bon nombre de Français et on pense que c'est là qu'est arrivé ce terme de champi qui s'est déformé en chompi. Alors, pour Robert Paris, qui est un type de l'École des hautes études en sciences sociales, il dit que ça procéderait de là et que la bâtardise connotant l'obscurité de ces petites gens et le mépris où on les tient. Donc c'est bien ces idées-là qui sont mises ici. Néanmoins, remarquons qu'ils n'ont jamais utilisé le terme de Chompi. Ils sont le peuple de Dieu entre eux. Et sur leur bannière, il y a l'ange Gabriel qu'ils appelaient l'ange de la libération. Donc on est devant un monde un peu spécial. Alors on a aussi le tumulte, qui procède aussi d'un jugement qui montre que ce n'est pas une révolte, que ce n'est pas une révolution. C'est plus qu'un monôme d'étudiants, on s'en doute, mais plutôt une populace avinée qui fait des choses sans se rendre compte de ce que ça va donner. Néanmoins, sur les revendications, on voit qu'il y a une certaine cohérence, il y a eu une organisation. Ça n'a pas été une révolution comme on va voir ultérieurement, avec ce qu'on a vu en Angleterre, ce qu'on a vu en France, ce qu'on a vu en Russie. Je veux dire, c'est pas du tout du même niveau. Et la durée a été extrêmement brève. Mais ils vont obtenir pendant 6 semaines leur propre corporation, ce qui n'est pas négligeable. Ils vont demander, dans leur programme était de demander, bien sûr, comme dans chaque grève avec débordement, que les actes répréhensibles ne soient pas condamnés. Il faut savoir que la justice était très lourde à Florence. Pour dette, on était emprisonné. On pouvait avoir une main coupée si on ne payait pas les dettes dans les 10 jours. On est au Moyen-Âge, on n'est pas... Il y a encore quelques pays qui font ça. Bon, enfin bon, on est au Moyen-Âge et la mort était aussi promise pour certaines dettes. Donc on est devant un monde qui est très dur, mais bon, le Moyen-Âge n'est pas non plus une période où on rigolait beaucoup sur ces points-là. Il demandait aussi une réforme fiscale. Il faut savoir qu'il y avait un système fiscal extraordinaire à Florence. Parce que Florence, qui faisait des guerres, qui faisait tant de trucs, avait des dettes. Et ces dettes, eh bien, il fallait trouver de l'argent. Et puis on avait des banquiers sous la main, on avait des puissants. Et le système mis au point a été assez extraordinaire. Cette grande bourgeoisie prêtait de l'argent à la commune. Et à partir de là, on leur rendait 5% tous les ans de la somme qu'ils avaient prêtée. Mais ça n'avait pas de fin. Tant que ce n'était pas remboursé, on ne pouvait pas rembourser. Donc, c'était les couches moyennes et même les pauvres qui payaient pour la haute bourgeoisie qui faisait des prêts à la ville à ce moment-là. Donc, ils ont demandé qu'on exproprie les prêts, c'est-à-dire qu'on décide qu'ils soient, qu'on ne les remboursait pas. Voilà donc un peu pour tout ce que j'avais à dire là-dessus. Pour conclure, on est devant un problème politique, c'est évident, politique et sociale et économique, mais politique. Alors, il y a quand même un grand spécialiste en Italie, c'est Machiavel. Machiavel qui a, dans les chroniques florentines, parlé des Ciompi. Je vous recommande pas trop les chroniques florentines parce que ça dure, c'est 500 pages dans la Pléiade, hein, c'est du lourd. Hein. J'ai lu les parties qui touchaient aux Ciompi un peu avant, mais c'est passionnant. Mais c'est du lourd et je n'avais pas le temps de lire tout ça, sinon je n'aurais parlé de ça, que de ça. Et dans ces histoires florentines, il rapporte la harangue enflammée d'un des meneurs. Et c'est curieusement Simone Veil, avec un W, qui a proposé la traduction que Marie-Hélène va nous lire en guise de conclusion.
Simone Veil, la philosophe.
La philosophe, celle qui est morte en 42. Voilà. C'est elle, elle écrit des chroniques passionnantes. Si vous voulez, je vous mettrai les liens. C'est une vision très très dure de cette insurrection.
La harangue des Ciompi.
Fort.
Si nous devions, en ce moment, délibérer pour savoir s'il faut prendre les armes, brûler, piller les maisons des citoyens, dépouiller l'Église, je serais de ceux qui diraient que cela mérite réflexion. Et peut-être serais-je d'avis de préférer une pauvreté tranquille à un gain périlleux. Mais puisque les armes sont prises et qu'il y a déjà beaucoup de mal de fait, il me semble que nous devons chercher par quels moyens conserver les armes et parer au danger où nous mettent les délits commis par nous. Vous voyez que toute la ville est pleine de rancune et de haine contre nous. Les citoyens se réunissent, les prieurs se joignent aux autres magistrats. Croyez que l'on prépare des pièges contre nous et que de nouveaux périls menacent nos têtes. Nous devons donc chercher à obtenir deux choses et assigner à nos délibérations un double but, à savoir, d'une part, ne pas être châtiés pour ce que nous avons fait les jours précédents. D'autre part, pouvoir vivre avec plus de liberté et plus de bien-être que dans le passé. Il convient à cet effet, et à ce qu'il me semble, si nous voulons nous faire pardonner les fautes anciennes, d'en commettre de nouvelles, de redoubler les excès, de multiplier vols et incendies et de chercher à entraîner un grand nombre de compagnons. Car là où il y a beaucoup de coupables, personne n'est châtié. Les petites fautes sont punies. Celles qui sont importantes et graves sont récompensées. Et quand un grand nombre de gens souffrent, la plupart ne cherchent pas à se venger parce que les injures générales sont supportées plus patiemment que les particulières. Ainsi, en multipliant le mal, nous trouverons plus facilement le pardon et nous verrons s'ouvrir devant nous la voie qui nous mènera vers les buts que nous désirons atteindre pour être libres. Et nous allons, me semble-t-il, à une conquête certaine. Car ceux qui pourraient nous faire obstacle sont désunis et riches. Leur désunion nous donnera la victoire. Et leur richesse, une fois devenue nôtre, nous permettront de la maintenir. Ne vous laissez pas effrayer par cette ancienneté du sang dont ils se targuent, car tous les hommes ayant eu une même origine sont également anciens et la nature nous a tous faits sur un même modèle. Déshabillés et nus, vous seriez tous semblables. Revêtons leurs habits, qu'ils mettent les nôtres, nous paraîtrons sans aucun doute nobles, et eux, gens du commun. Car seule la pauvreté et la richesse font l'inégalité. Machiavel.
Voilà, là les ours. Bien, si vous avez des questions.
Quelles étaient les activités professionnelles des champs?
Généralement, ce sont des ouvriers non qualifiés qui travaillent dans des ce n'est pas de l'industrie, hein. Il y a plus d'une centaine d'entreprises, surtout dans la laine. Ils sont payés de manière journalière et ils habitent en général dans les faubourgs. Alors les faubourgs, si on revient un poil en arrière, voilà, c'est là que je voulais en venir, c'est quand même dans la troisième enceinte, hein. La bataille se déroule là. La haute bourgeoisie habite dans le centre. C'est un peu le système actuel, hein, pour tout ça, vrai. Et voilà donc pour ces hommes. Ce sont des gens qui ne sont pas très qualifiés en général.
Oui, on pourrait être un peu plus précis, je pense. Mm-hmm. C'est que on dit que Ciompa, en italien de Toscane, ça voulait dire battre.
Oui.
Ça, c'est les dégoûts. On pense que c'était une profession qui devait battre les toisons de laine pour en détacher la laine. Ça me paraît un peu difficile, mais enfin bon, c'est ce qu'il fallait faire. Et cette laine était ensuite cardée ou peignée pour en faire ensuite un fil. Et le fil, ça passait dans les métiers à tisser des artisans florentins. Et bien sûr, ceux qui travaillaient la laine sur des métiers pratiquaient un métier noble. Mais ceux qui avaient sans aucune formation, ceux qui battaient la laine pour en extraire un produit qui n'était même pas fini, qu'il fallait ensuite garder ou filer. Ouais. Alors cela, c'était un métier qui était disqualifié.
Oui, je suis complètement d'accord. Il y avait une hiérarchie dans les corporations. J'ai un article, là, je pourrais en mettre les éléments sur le site, qui s'appelle les Chompi Cardeurs Foulon Bâtard, point d'interrogation. C'est fait par quelqu'un de l'école des hautes études, Robert Paris, j'en ai parlé d'ailleurs. Et effectivement, il montre bien cette histoire. Au début, on a parlé, c'était même l'explication dominante du nom, mais aujourd'hui, c'est à peu près abandonné. Je vais retrouver. C'est un article complexe. Néanmoins, bon, je vous le mettrai, je ne vais pas le retrouver tout de suite, on a peut-être d'autres choses à parler, mais tu as complètement raison dans ce que tu dis. Cette histoire, oui, zombare, c'est du toscan, c'est pas de l'italien, battre, frapper, rosser. Mais aujourd'hui, on peut dire que, si on veut, la vision de ce mouvement, d'à peu près tout, est profondément modifiée au fur et à mesure. Ils sont traités vraiment comme les derniers des derniers, après les chroniqueurs d'après. Après, on a Machiavel, qui change déjà, il commence à lire, à analyser la chose, donc ça change. Après, on va avoir une vision des historiens du 19e, qui va être prise en gros par les marxistes. Après, à partir de 1980, on a une vision qui explique, la vision anglo-saxonne, qui explique que ce sont des hommes qui ont été totalement manipulés par les puissants, qui ont fait des choses, c'est des abrutis qui ne comprenaient rien. Aujourd'hui, on est sur quelque chose où il y a des études analytiques d'une telle précision que je pense qu'on va aboutir à comprendre qu'il y a eu des deux choses. Il y a eu manipulation évidente et il y a eu tout de même autonomie de ce mouvement par lui-même. C'est ça le problème. Alors sur le problème des niveaux, on est devant des niveaux sociaux qui sont bas dans la hiérarchie.
Oui, d'autant plus que quand même, on a assisté à... On a admis que des arts mineurs, on a vu que les trois arts mineurs devenaient des arts majeurs.
Oui.
Il y avait quand même une hiérarchie très, très sévère dans la qualification des métiers.
Oui, mais en même temps, c'est quand même un problème politique. Donc après, il y a les deux. Alors il faut savoir que c'est... J'avais mis les tout à l'heure, mais on a les chiffres là du nombre de familles qui sont là-dedans. Donc c'est bien les sotopostis, les soumis à un art, c'est l'art qui les domine, qui sont la majorité de cette contrée. Mais il est évident que, on a parlé Foulon, les moulins à Foulon, ils sont au point, je ne suis pas du tout certain qu'il y en a dans Florence. Ça se verrait sur les représentations habituelles avec le cadenas, qui date de 1400 et quelque chose, et où on voit bien qu'il n'y a pas de navires en suspension qui vont battre les draps, et puis il y aurait trop de boulot à faire. Deuxièmement, il est clair qu'ils importent des draps, et en masse, pour l'éteindre.
Les flamands.
Oui, bien sûr. Et donc, on est devant des métiers, il y a énormément de métiers. Je n'ai pas voulu rentrer dans ce domaine parce qu'il est, horriblement compliqué.
Oui, puis enfin,
mais tu as raison, bien sûr. Autre chose à remarquer ?
Merci pour ton travail.
Ouais. Ah, une question au fond. Henri. Vas-y, Henri.
Les drags, ils arrivaient d'Espagne et ils étaient démontés dans la campagne de Florence.
Ouais.
Et un beau jour, Florence a aidé les Sardes pour chasser les Saracens. Et là, ils ont découvert les moutons sardes avec une laine longue comme ça. Et c'est depuis ce moment-là que Florence a explosé. D'ailleurs, on le voit avec notre ami Médicis,
ouais,
qui était, lui, un lainier. qui est le premier à délaigner. Et l'histoire de Florence qui dépend de la Sardaigne.
D'ailleurs, Rome a été. Oui, autre chose ? Voilà, merci. À bientôt.